questions. Eh bien, je vais devoir poser ici les questions que tant de gens, je le sais, se posent et veulent poser. Comment un homme comme Hitler a-t-il pu aller au ciel? Chaque religion du monde, j'imagine, vraiment chacune d'entre elles, l'a condamné et envoyé en enfer. Réponse. Tout d'abord, il ne pouvait pas aller en enfer parce que l'enfer n'existe pas. Par conséquent, il ne pouvait aller qu'à un seul endroit. Mais cela soulève la question. La vraie question, c'est, les gestes d'Hitler étaient-ils mauvais? Toutefois, j'ai dit et répété qu'il n'y a ni bien ni mal dans l'univers. En soi, une chose n'est ni bonne ni mauvaise. Une chose est, tout simplement. Alors, l'idée selon laquelle Hitler était un monstre est fondée sur le fait qu'il a ordonné le meurtre de millions de gens, n'est-ce pas? Question, de toute évidence, oui. Réponse. Mais si je te disais que ce que tu appelles la mort est la chose la plus belle qui puisse arriver à quiconque, qu'en dirais-tu? Question. J'aurais de la difficulté à l'accepter. Réponse. Tu crois que la vie sur Terre est meilleure que la vie au ciel? Je te dis ceci. À l'instant de ta mort, tu atteindras la liberté la plus grande, la paix la plus grande, la joie la plus grande et l'amour le plus grand que tu aies jamais connu. Par conséquent, punirons-nous le renard pour avoir poussé le lapin dans les ronces? Question. Tu ignores le fait que, même si la vie après la mort est merveilleuse, notre vie ici-bas ne doit pas prendre fin contre notre volonté. Nous sommes venus ici pour accomplir quelque chose, pour faire l'expérience de quelque chose, pour apprendre quelque chose. Il n'est pas bien que nos vies soient interrompues par un truand maniaque aux idées malsaines. Réponse. Tout d'abord, vous n'êtes pas ici pour apprendre quoi que ce soit. Relis le tome 1. La vie n'est pas une école, et ton but, ici, n'est pas d'apprendre. Il est de te appeler, de te rappeler, de te souvenir. Quant à ton argument principal, la vie est souvent interrompue, entre guillemets, par bien des choses. Un ouragan, un tremblement de terre. Question. C'est différent, tu parles d'un acte de Dieu. Réponse. Chaque événement est un acte de Dieu. T'imagines-tu qu'un événement puisse survenir contre ma volonté? T'imagines-tu pouvoir même lever le petit doigt si je décidais le contraire? Tu ne peux rien faire si je suis contre. Mais continuons à explorer ensemble cette idée que la mort est mauvaise. Est-il mauvais qu'une vie soit interrompue par la maladie? Question. Mauvais n'est pas le terme approprié ici. Ce sont des causes naturelles. Ça ne se compare pas à un être humain comme Hitler qui tue des gens. Réponse. Et un accident. Un stupide accident. Question. Même chose. C'est malheureux, tragique, mais c'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons regarder dans l'esprit de Dieu pour y découvrir pourquoi ces choses arrivent. Nous ne devrions pas essayer, car la volonté de Dieu est immuable et incompréhensible. Chercher à percer le divin mystère, c'est chercher une connaissance. Ce n'est pas du tout dans nos cordes. C'est un péché. Réponse. Comment le sais-tu? Question. Parce que si Dieu voulait que nous comprenions tout cela, nous le comprendrions. Le fait que nous ne le comprenions pas, que nous ne puissions pas le comprendre, prouve que Dieu ne veut pas que nous le comprenions. Réponse. Je vois. Le fait que tu ne le comprennes pas est la preuve de la volonté de Dieu. Le fait que cela arrive n'est pas la preuve de la volonté de Dieu. Question. J'imagine que je n'arrive pas très bien, en partie, à expliquer cela, mais je sais ce que je crois. Réponse. Crois-tu à la volonté de Dieu? Crois-tu que Dieu est tout-puissant? Question. Oui. Réponse. Sauf en ce qui concerne Hitler. Ce qui s'est passé là n'était pas la volonté de Dieu. Question. Non. Réponse. Comment est-ce possible? Question. Hitler a enfreint la volonté de Dieu. Réponse. Alors, comment aurait-il pu faire cela, selon toi, si ma volonté est toute-puissante? Question. Tu lui as permis de le faire? Réponse. Si je lui ai permis de le faire, alors ma volonté était qu'il le fasse. Question. Il semble que oui, mais pour quelle raison l'aurais-tu fait? Non, ta volonté était qu'il ait le libre choix. C'est par sa volonté qu'il a fait ce qu'il a fait. Réponse. Tu brûles, tu brûles. Tu as raison, bien sûr. Ma volonté était qu'Hitler, comme vous tous, ait le libre choix. Mais ma volonté n'était pas que vous soyez sans cesse punis, à l'infini, si vous ne faites pas le choix que je veux. Si c'était le cas, quel degré de liberté aurais-je donné à votre choix? Êtes-vous vraiment libre de faire ce que vous voulez, si vous savez qu'on vous fera souffrir de façon indescriptible si vous ne faites pas ce que je veux? Quel genre de choix est-ce là? Question. Ce n'est pas une question de punition, ce n'est que la loi naturelle, ce n'est qu'une question de conséquence. Réponse. Je vois qu'on t'a bien appris toutes les constructions théologiques qui te permettent de me considérer comme un Dieu vengeur, sans m'en rendre responsable. Mais qui a créé ces lois naturelles? Et si nous nous entendons sur le fait que je les ai mises en place, pourquoi mettrais-je en place de telles lois? Pour vous donner ensuite le pouvoir de les enfreindre. Si je n'avais pas voulu qu'elles vous affectent, si ma volonté avait été que mes merveilleux êtres ne souffrent jamais, pourquoi en aurais-je créé la possibilité? Et alors, pourquoi continuerais-je de vous inciter jour et nuit à enfreindre les lois que j'ai établies? Question. Ce n'est pas toi qui nous tente, c'est le diable. Réponse. Te revoilà à m'enlever la responsabilité. Ne vois-tu pas que ta seule façon de pouvoir justifier ta théologie est de me rendre impuissant? Ne comprends-tu pas que la seule façon dont tes constructions puissent avoir un sens, c'est si les miennes n'en ont pas? Cela ne t'inquiète-t-il pas de penser qu'un Dieu écrit un être dont il ne peut contrôler les actions? Question. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais contrôler le diable. Tu peux contrôler tout. Tu es Dieu. Seulement, tu choisis de ne pas le faire. Tu permets au diable de nous tenter, de tenter de gagner nos âmes. Réponse. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-je cela si je veux que vous reveniez vers moi? Question. Parce que tu veux que nous venions vers toi par choix, et non parce que nous n'avons pas le choix. Tu as créé le ciel et l'enfer pour nous donner un choix, pour que nous puissions agir par choix, au lieu de nous contenter de suivre une voie parce qu'il n'en a pas d'autre. Réponse. Je vois comment tu en es arrivé à cette idée. Comme c'est ainsi que j'ai établi les règles de votre monde, tu crois qu'il doit en être de même dans le mien. Dans ta réalité, le bon ne peut exister sans le mauvais. Donc, tu crois qu'il doit en être ainsi dans la mienne. Mais je te dis ceci, là où je suis, il n'y a rien de mauvais. Et il n'y a pas de mal. Il n'y a que le grand tout, l'unité et la conscience, l'expérience de cela. Mon royaume est le royaume de l'absolu, où une chose n'existe pas en relation avec une autre, mais de façon complètement indépendante de tout. Mon espace est là où tout ce qui est, est amour. Question. Est-ce que ce que nous pensons, disons ou faisons sur Terre est sans conséquence? Réponse. Oh, mais il y a des conséquences. Regarde autour de toi. Question. Je veux dire, après la mort. Réponse. La mort n'existe pas. La vie continue à jamais. La vie est. Tu changes de forme, tout simplement. Question. D'accord, comme tu voudras. Après, nous changeons de forme. Réponse. Une fois que vous avez changé de forme, il n'y a plus de conséquences. Il n'y a que la connaissance. Les conséquences sont un élément de la relativité. Elles n'ont aucune place dans l'absolu parce qu'elles dépendent du temps linéaire et d'événements séquentiels. Ces choses n'existent pas dans le royaume de l'absolu. Dans ce royaume, il n'y a que la paix, la joie et l'amour. Dans ce royaume, tu sauras enfin la bonne nouvelle, que ton « diable » entre guillemets n'existe pas, que tu es ce que tu as toujours cru être, bonté et amour. Cette idée que tu te fais, que tu puisses être autre chose, t'es venu d'un monde extérieur malsain qui t'a amené à agir d'une façon malsaine. Un monde extérieur de jugement et de condamnation. D'autres t'ont jugé et, à partir de leur jugement, tu t'es jugé toi-même. Alors tu veux que Dieu te juge, mais je ne le ferai pas. Et parce que tu ne peux comprendre un Dieu qui n'agit pas comme le font les humains, tu es perdu. Votre théologie est une tentative, de votre part, de vous retrouver. Question. Tu dis que nos théologies sont malsaines, mais comment une théologie peut-elle fonctionner sans un système de récompense et de punition? Réponse. Tout dépend de ce que vous croyez être le but de la vie et, par conséquent, la base de la théologie. Si vous percevez la vie comme un examen, une épreuve, une période d'évaluation ayant pour but de vérifier si vous êtes digne, entre guillemets, vos théologies commencent à tenir debout. Si vous croyez que la vie est une occasion, un processus qui vous permet de découvrir, de vous rappeler, que vous êtes digne, et l'avez toujours été, alors vos théologies semblent malsaines. Si vous croyez que Dieu est un égocentrique qui exige de l'attention, de l'adoration, de l'appréciation et de l'affection au point de tuer pour en avoir, alors vos théologies commencent à avoir un sens. Si vous croyez que Dieu n'a ni ego ni besoin, mais se trouve être la source de toute chose et le siège de toute sagesse et de tout amour, alors vos théologies tombent en pièces. Si vous croyez que Dieu est vengeur, jaloux dans son amour, courroucé dans sa colère, alors vos théologies sont parfaites. Si vous croyez que Dieu est paisible, joyeux dans son amour et passionné dans son extase, alors vos théologies sont inutiles. Je te dis ceci, le but de la vie n'est pas de plaire à Dieu. Le but de la vie est de connaître et de recréer qui vous êtes. Ce faisant, vous plaisez vraiment à Dieu et vous la glorifiez aussi. Question. Pourquoi emploies-tu le féminin? Es-tu de sexe féminin? Réponse. Je ne suis ni de sexe masculin, ni de sexe féminin. J'utilise à l'occasion le pronom féminin pour secouer votre esprit de clocher. Si vous imaginez Dieu sous une forme précise, vous penserez que Dieu n'est pas telle autre forme. Et ce serait une grossière erreur. Hitler est allé au ciel pour la raison suivante. Comme il n'y a pas d'enfer, il ne pouvait aller ailleurs. Ses actions étaient ce que vous appelleriez des erreurs, les actions d'un être non évolué. Et les erreurs ne sont pas condamnables. Mais on les traite en offrant une chance de correction, d'évolution. Les erreurs d'Hitler n'ont fait aucun tort ni aucun dommage à ceux dont il a provoqué la mort. Ces âmes ont été libérées de leur prison terrestre, comme des papillons émergeant d'un cocon. Les survivants ne pleurent ces morts que parce qu'ils ne connaissent pas la joie dans laquelle ces âmes sont entrées. Ceux qui ont fait l'expérience de la mort ne pleurent jamais la mort de qui que ce soit. Lorsque tu affirmes que leur mort était tout de même prématurée, et donc quelque peu « mauvaise », entre guillemets, tu suggères qu'il pourrait se passer dans l'univers quelque chose d'inopportun. Mais étant donné qui est ce que je suis, c'est impossible. Tout ce qui arrive dans l'univers arrive à la perfection. Dieu n'a pas fait d'erreur depuis très longtemps. Lorsque tu vois l'absolue perfection en tout, non seulement ces choses avec lesquelles tu es d'accord, mais, et peut-être surtout, les choses avec lesquelles tu ne l'es pas, tu atteins la maîtrise. Question. Je sais tout cela, bien entendu. Nous avons vu tout cela dans le tome 1. Mais pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, j'ai cru important de fournir une base de compréhension au début de ce livre. C'est pourquoi j'ai employé cette série de questions et de réponses. Mais maintenant, avant de continuer, j'aimerais parler un tout petit peu plus de certaines des théologies fort complexes que nous, humains, avons créées. Par exemple, on m'a enseigné, enfant, que j'étais un pécheur, que tous les humains étaient des pécheurs, que nous ne pouvons rien y faire, que nous étions nés ainsi, que nous étions nés dans le péché. Réponse. C'est une idée intéressante. Comment est-on arrivé à te faire croire cela? Question. On m'a raconté l'histoire d'Adam et Ève. Dans la classe de catéchisme, à l'école primaire, on m'a dit que, eh bien, même si nous n'avions peut-être jamais péché, et même si les bébés ne l'ont certainement pas fait, Adam et Ève l'avaient fait, eux, et que, puisque nous en étions les descendants, nous avions hérité de leur culpabilité et de leur nature de pécheurs. Tu vois, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ont pris part à la connaissance du bien et du mal, et ont donc condamné tous leurs héritiers et descendants à être séparés de Dieu dès leur naissance. Nous sommes tous nés l'âme entachée par ce péché originel. Chacun de nous partage la culpabilité. Alors, on nous donne le libre choix pour voir, j'imagine, si nous ferons la même chose qu'Adam et Ève et désobéirons à Dieu, ou si nous pourrons surmonter notre tendance naturelle et innée à faire le mal, pour plutôt faire les bonnes choses malgré les tentations du monde. Réponse. Et si vous faites le mal? Question. Alors, tu nous envoies en enfer? Réponse. Moi, je fais cela? Question. Oui, sauf si nous nous repentons. Réponse. Je vois. Question. Si nous disons que nous regrettons, que nous faisons un acte de contrition parfaite, tu nous sauveras de l'enfer, mais pas de toute souffrance. Nous devrons tout de même aller au purgatoire pendant un certain temps pour nous purifier de nos péchés. Réponse. Combien de temps devrez-vous passer au purgatoire? Question. Cela dépend, il faut brûler nos péchés. Ce n'est pas très agréable, laisse-moi te dire. Et plus nous avons de péchés, plus ils mettent de temps à brûler, et plus nous devons rester longtemps. C'est ce qu'on m'a dit. Réponse. Je comprends. Question. Mais au moins, nous n'irons pas en enfer, car l'enfer est éternel. Par contre, si nous mourons en état de péché mortel, nous irons droit en enfer. Réponse. De péché mortel? Question. C'est le contraire du péché véniel. Si nous mourons avec un péché véniel sur l'âme, nous n'allons qu'au purgatoire. Le péché mortel nous mène droit en enfer. Réponse. Peux-tu me donner un exemple des diverses catégories de péchés dont on t'a parlé? Question. Bien sûr. Les péchés mortels sont graves, un peu comme les grands crimes. Ce sont des forfaits théologiques, des choses comme le meurtre, le viol, le vol. Les péchés véniels sont plutôt mineurs. Ce sont des délits théologiques. Un péché véniel, ce serait du genre manquer la messe le dimanche, ou autrefois manger de la viande le vendredi. Réponse. Minute. Ce Dieu-là t'envoyait au purgatoire si tu mangeais de la viande le vendredi? Question. Oui, mais plus maintenant, pas depuis le début des années 50. Mais si nous mangeions de la viande le vendredi avant le début des années 50, nous étions cuits. Réponse. Vraiment. Question, absolument. Réponse, eh bien, qu'est-il arrivé au début des années 50 pour que ce péché n'en soit plus un ? Question, le pape a dit que ce n'était plus un péché. Réponse, je vois. Et ce Dieu-là, il t'oblige à le vénérer, à aller à l'église le dimanche, sous peine de punition. Question, manquer la messe est un péché, oui. Et si on ne se confesse pas, si on meurt avec ce péché sur l'âme, il faut aller au purgatoire. Réponse, mais et un enfant ? Et ce petit enfant innocent qui ne connaît pas toutes ces règles selon lesquelles Dieu aime ? Question, eh bien, si un enfant meurt avant d'être baptisé dans la foi, cet enfant va dans les limbes. Réponse, va où ? Question, dans les limbes. Ce n'est pas un lieu de punition, mais ce n'est pas le ciel non plus. C'est les limbes. On ne peut pas être avec Dieu, mais au moins on n'est pas obligé d'aller au diable. Réponse, mais pourquoi ce bel enfant innocent ne pourrait-il pas être avec Dieu ? Cet enfant n'a rien fait de mal. Question, c'est vrai, mais cet enfant n'a pas été baptisé. Même les bébés innocents et immaculés, comme n'importe qui, d'ailleurs, doivent avoir été baptisés pour aller au ciel. Autrement, Dieu ne peut les accepter. C'est pourquoi il est important de faire baptiser les enfants rapidement, aussitôt après la naissance. Réponse, qui t'a dit tout cela ? Question, Dieu, à travers son Église. Réponse, quelle Église ? Question, la Sainte Église catholique romaine, bien entendu. C'est l'Église de Dieu. En fait, si on est catholique et qu'on se trouve à fréquenter une autre Église, c'est aussi un péché. Réponse, je croyais que c'était un péché de ne pas aller à l'Église. Question, oui, mais c'est aussi un péché d'aller à la mauvaise Église. Réponse, qu'est-ce que c'est une mauvaise Église ? Question, toute Église qui n'est pas catholique. On ne peut pas être baptisé dans la mauvaise Église. On ne peut se marier dans la mauvaise Église. On ne peut même pas fréquenter une mauvaise Église. Je sais très bien cela parce que, quand j'étais jeune, j'ai voulu, avec mes parents, aller au mariage d'un ami. En fait, on m'avait demandé de participer au mariage en tant que placier. Mais les religieuses m'ont dit que je ne pouvais accepter l'invitation parce que c'était dans la mauvaise Église. Réponse, leur as-tu obéi ? Question, aux religieuses ? Non, je me suis dit que Dieu, toi, se trouverait à l'autre Église avec tout autant de bonne volonté qu'à la mienne. Et j'y suis donc allé. Je suis resté debout dans le sanctuaire en smoking et ça me convenait. Réponse, bien. Alors voyons maintenant. Nous avons le ciel, nous avons l'enfer, nous avons le purgatoire, nous avons les limbes, nous avons le péché mortel, nous avons le péché véniel, y a-t-il autre chose ? Question, eh bien, il y a la confirmation, la communion et la confession, il y a l'exorcisme et l'extrême-onction, il y a... Réponse, attends. Question, il y a les saints patrons, les saintes journées d'obligation. Réponse, chaque journée est sanctifiée, chaque minute est sacrée. Ceci, maintenant, est l'instant sacré. Question, eh bien, oui. Mais certaines journées sont vraiment saintes, les saintes journées d'obligation, et ces jours-là, nous devons également aller à l'église. Réponse, revoilà les obligations. Et qu'arrive-t-il si tu n'y vas pas ? Question, c'est un péché. Réponse, alors, on va en enfer ? Question, en fait, si on meurt avec ce péché sur l'âme, on va au purgatoire. C'est pourquoi il est bon d'aller à la confesse. Vraiment, aussi souvent qu'on le peut. Certaines personnes y vont chaque semaine, certaines tous les jours. Ainsi, elles peuvent passer l'éponge, effacer l'ardoise au cas où elles mourraient. Réponse, bigre, c'est ce qui s'appelle vivre dans la peur constante. Question, oui, tu vois, c'est le but de la religion, nous insuffler la peur de Dieu. Alors nous faisons le bien et résistons à la tentation. Réponse, ah bon, et si tu commets un péché entre deux confessions, puisque tu es victime d'un accident ou d'autre chose, et que tu meurs ? Question, ça va, pas de panique. Il suffit de faire un acte de contrition parfaite. Mon Dieu, je regrette vraiment de t'avoir offensé. Réponse, d'accord, ça suffit. Question, mais attends, ce n'est que l'une des religions du monde. Tu ne veux pas examiner les autres ? Réponse, non, je me suis fait une idée. Question, eh bien, j'espère que les gens ne pensent pas que je ne fais que ridiculiser leurs croyances. Réponse, vraiment, tu n'en ridiculises aucune. Tu les exposes tout simplement telles qu'elles sont. C'est comme le disait votre président américain Harry Truman, lorsque les gens criaient « Étriplé, Harry !» Il leur répondait « Je n'ai pas besoin de les étriper, je n'ai qu'à les citer et on voit bien que c'est de la merde. »